Panorama économique.
Bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. La grève des transporteurs routiers sur la nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa. Les choses n'ont pas trop évolué cette semaine en dépit de tous les appels et du gouvernement et du syndicat. Dissoudre les lignes aériennes congolaises et créer une nouvelle compagnie aérienne sur les centres de celles-ci, c'est l'avis du ministre des Transports et Voies de Communication soutenu mercredi devant le Sénat. Mais pour le bon syndical, c'est une équation à plusieurs inconnues que le ministre ne saura résoudre. Fraude massive, voire organisée à la barrière douanière de Mahagui, c'est le collectif des ONG des défenses des droits de l'homme de cette entité qui déplore cela. Le collectif dénonce également la complicité des agents de la DGDA dans cette fraude. Élan 1 de Matata Ponyo à la tête du gouvernement, le Premier ministre devant la presse jeudi a fait son bilan. Le volet économie de ce bilan est analysé et commenté dans votre magazine. Notre invité, Madame Yuyu Bayende, docteur en économie à l'Université catholique de Louvain, professeur d'économie à l'Université de Kinshasa. Madame Yuyu, vous analysez l'actualité économique de la semaine avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Et devant ce micro, Daniel Tambinzoni et Agathe Pona pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Bienvenue à tous.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine, toujours pas de reprise de trafic cette semaine entre Kinshasa et Matadi.
Même les entreprises autorisées n'ont pas pu reprendre le trafic, Daniel, et à la base de cette situation, les travailleurs des entreprises dont les patrons n'ont pas respecté les engagements de janvier ont fait obstruction. C'est en tout cas le constat fait par notre confrère à Matadi, Guérogé Nyampala. Suivez-le dans cette conversation avec Jocelyne Moussaopondé.
Nous avons effectivement assisté cet après-midi à la place Simon Kimbangu, un rond-point connu sous le nom de Coca, à l'arrivée de deux véhicules poids lourds chargés des marchandises qui voulaient prendre la route vers Kinshasa. Eh bien, Jocelyne, les chauffeurs et convoyeurs se sont interposés pour justement empêcher ces véhicules de passer. Et donc, aucun véhicule poids lourd n'a bougé jusqu'à présent de Matadi.
Ces deux véhicules appartiennent à deux sociétés qui ont respecté les accords signés au mois de janvier 2013. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on en arrive à cette situation que nous vivons aujourd'hui ?
Écoutez Jocelyne, une divergence des vues s'est installée au niveau du rond-point dont je parlais tout à l'heure. D'une part parce qu'il y avait ceux qui voulaient que les camions prennent le chemin de Kinshasa et d'autre part un groupe qui refusait carrément que les chauffeurs de ces sociétés reprennent le travail. Et sur place, nous avons posé la question à un chauffeur pour savoir pourquoi ce revirement. Pourtant hier, ils étaient tous d'accord pour ouvrir un corridor pour ceux qui sont en règle et ce chauffeur a tout simplement répondu que ceux qui avaient accepté cette autorisation hier, lors de la réunion tenue au dancing bar La Payotte de Matadi, étaient minoritaires. D'où la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
Merci Guérogé Nyampala de suivre pour nous cette affaire.
Merci aussi à toi Jocelyne Moussaopondé. Et dans ce studio de Panorama économique, nous allons retrouver Madame Yuyu Bayende, je vous le disais, docteur en économie à l'Université catholique de Louvain. Elle est professeure de l'économie à la faculté de l'économie à l'Université de Kinshasa. Madame, encore une fois, bonjour. Vous avez suivi ce dossier. La ville de Kinshasa est à 90% alimentée par Matadi et c'est sur cette rançon que la grève perdure.
Effectivement, comme vous l'avez déjà dit, la ville de Kinshasa est approvisionnée principalement d'arrêts de première nécessité via la ville de la province de Bas-Congo. Et une rupture d'approvisionnement va avoir un effet important en termes de l'offre de ce bien de première nécessité et ce qui va entraîner nécessairement une augmentation de prix. D'ailleurs, nous vivons déjà cela dans le marché, le prix de la farine et je crois du sucre qui ont déjà augmenté parce qu'il y a un problème d'approvisionnement. Donc les conséquences en termes économiques sont évidentes.
Mais est-ce que la situation de dépendance quasi totale en produits manufacturés de Kinshasa cette dépendance envers Matadi, est-ce que c'est une situation normale?
On devait absolument élargir les centres d'approvisionnement. Ça, c'est un problème que le gouvernement devra absolument sur lequel le gouvernement devra se pencher pour justement essayer de repartir le pôle d'approvisionnement, construire des routes d'approvisionnement départ notre vaste pays. Et ça, c'est un véritable problème de dépendre certainement seulement du Bas-Congo. Parce que voilà qu'il y a un problème, mais maintenant, la capitale en souffre.
Et là, on est en train de voir un État fragilisé parce qu'il n'y a pas une politique assez clairement définie dans le secteur du transport. Chaque fois que le privé boude, c'est la population qui en souffre. Et voilà, parce que sur la nationale numéro 1, Matadi-Kinshasa, on ne voit pas des engins de l'État congolais qui effectuent ces mouvements-là. Et même la voie ferrée qui a été construite au secours à cette voie routière-là est dans un état de délabrement inexploité jusque-là. Et on ne voit pas un plan de redressement clair de la situation. On voit un peu l'État absent dans ce secteur de transport.
C'est une évidence. Et là, je peux, lorsque j'analyse la structure de marché, donc je peux dire que le marché de transport dans notre pays a un caractère assez oligopolistique. Ça veut dire qu'il n'y a que quelques offreurs qui contrôlent ce marché. Et ils ont tous les pouvoirs. Ils peuvent fixer n'importe quel prix. Ils peuvent décider une rupture de service. Et voilà que c'est toute la population qui en souffre. Donc je crois que l'État devait absolument intervenir dans ce secteur, surtout le transport, pour essayer d'accroître l'offre, de diversifier l'offre et de rendre ce marché beaucoup plus concurrentiel et de pouvoir ainsi contrôler l'offre et les prix qui est fixé sur ce marché.
Docteur Youyou Bayende, nous allons rester dans le secteur de transport pour évoquer ce deuxième sujet de la dissolution des lignes aériennes congolaises que préconise le ministre des Transports et voies de communication.
Justin Kalumba a annoncé cette nouvelle sans préciser la date exacte de la création de la nouvelle compagnie aérienne. En réaction à cette annonce, toute la délégation syndicale des lignes aériennes congolaises s'est réunie en urgence jeudi à Kinshasa pour analyser la question. Et pour la délégation syndicale, au lieu de dissoudre ou de créer une nouvelle compagnie qui coûterait beaucoup plus cher au trésor public, le banc syndical souhaite que le ministre envisage la relance de la compagnie. Les propos de Sylvain Makiesemanda, délégué syndical national des LAC, suivez.
La réaction de la délégation syndicale est une déception totale, parce que pour plusieurs fois, dans plusieurs occasions, nous avons rencontré le ministre de Transport pour débattre de ce problème. Mais le commun de LAC est conscient que cette décision ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours voulu dissoudre LAC, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore arrivé à le faire pour plusieurs raisons. Liquider LAC coûtera plus cher que sa relance. Malheureusement, à deux occasions, et même par nos correspondances, nous avons signifié ça au ministre des Transports.
L'actuel,
il continue à s'entêter. D'ailleurs, le gouvernement a pris cette décision sans que celle qui pilote le ministère concerné, c'est-à-dire le portefeuille, soit là. Le transport, qui n'a pas dans ses attributions la dissolution ni la création, mais continue à s'acharner. Pourquoi ?
Ce que vous avez évité pendant longtemps est finalement arrivé. Comment vous réagissez en tant que président de la délégation syndicale ?
La liquidation ? Mais ça, c'est un projet. Ce n'est pas encore un fait acquis.
Même quand le ministre parle, ce n'est pas encore acquis.
Mais créer une société, vous croyez, c'est à coup de discours? Non. Il faut une commission qui doit évaluer et le patrimoine et l'actif et réaliser la liquidation. Au cas où on adoptait ce projet, il faut avoir un liquidateur.
Ce que le ministre n'a pas encore fait.
Ce que le ministre n'a pas encore fait et ce qu'il ne fera pas puisque ce n'est pas dans ses attributions.
Voilà, professeur Youyou Bayende, vous avez suivi attentivement cet élément. Que proposerez-vous au gouvernement devant une telle situation? Une entreprise en faillite, disons-le, qui a un passif très lourd, dont environ 200 mois d'arriérés de salaire, mais que le gouvernement veut dissoudre. Les agents des entreprises proposent plutôt qu'elle soit relancée. Quelle décision prendre à ce niveau?
Effectivement, il est difficile d'avancer une proposition lorsqu'on n'a pas toute l'information à ce sujet, mais je peux quand même essayer de proposer quelques pistes de réflexion. Principalement, je peux dire qu'en économie, nous savons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faut savoir quelles sont les causes qui ont amené cette entreprise à se retrouver dans cette situation.
Oui.
Et essayer maintenant de faire une analyse coût-bénéfice. Que coûtera une liquidation? Que coûtera une relance? Donc il ne suffit pas simplement de dire que ben, voilà, nous allons liquider et puis nous allons créer une nouvelle entreprise, mais il faut véritablement, comme le délégué syndical l'a dit, essayer d'évaluer le passif, d'évaluer l'actif et maintenant évaluer aussi le coût social et le coût économique. Que deviendront tous ces salariés de l'AC? Est-ce qu'il y a des plans de réinsertion pour ces personnels? Donc il y a toutes ces questions qu'il faudra que on nous apporte, auxquelles on devra nous apporter des réponses concrètes pour savoir effectivement sur quelle piste s'avancer.
Mais le ministre ou sénateur a avancé notamment comme raison le fait qu'il faudrait que préserver l'entreprise des différentes saisies de son patrimoine. Je crois qu'il y a beaucoup de créanciers qui saisissent le patrimoine de l'AC pour se faire rembourser et liquider l'entreprise est une solution, selon lui.
Et pourquoi est-ce que l'État n'interviendrait pas justement pour soulager le l'AC intervenu? Parce qu'on a vu dans d'autres pays qui où des compagnies
en difficulté
ont reçu le souffle auprès du gouvernement. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement n'interviendrait pas pour essayer en tant soit peu d'aider cette entreprise qui est en difficulté au lieu de prendre la décision la plus radicale?
Voilà. Donc, dommage que nous n'avons pas eu cette interview avec le ministre avant de passer cette émission, mais certainement on nous reviendra encore avec d'autres détails. Le troisième dossier de la semaine va revenir sur la fraude massive et qui serait même organisée à la barrière douanière de Mahagui.
C'est le collectif des ONG de droits de l'homme de cette entité qui dénonce cette situation. Dans un mémorandum rendu public mardi, les défenseurs des droits de l'homme parlent aussi de la complicité des agents de la douane dans cette fraude. Le parquet militaire de Mahagui s'est déjà saisi du dossier et a même interpellé certains déclarants et responsables de la DGDA Mahagui. Ils sont accusés d'avoir favorisé le passage frauduleux d'un camion-citerne arrêté le week-end à Mahagui Centre. Isaac Remoyope pour les récits des faits.
Dans ses mémos, ce collectif des droits de l'homme révèle plusieurs cas de fraude au poste douanier de Mahagui. Il s'agit notamment des passages de 8 camions transportant des marchandises il y a une semaine sans remplir les formalités douanières. 4 voitures importées ont également traversé la frontière des Goli à Mahagui sans être dédouanées. Selon le directeur de l'ONG Lipado Mahagui, Sami Djakouanga, deux de ces véhicules ont été arrêtés à Kpandroma pendant que leur propriétaire cherchait à les récupérer auprès de certains déclarants douane. Ce collectif dénonce également la sous-évaluation des marchandises au poste douanier de Mahagui. Le week-end dernier, le parquet militaire de Mahagui a arrêté un camion citerne avec de carburant qui a échappé au paiement des taxes et des douanes. Après audition, les chauffeurs des camions ont dénoncé la complicité des agents des douanes et des déclarants qui ont été interpellés par les magistrats de cette juridiction. Ces collectifs recommandent notamment la suspension et les remplacements des agents de la DGDA impliqués dans ces dossiers et que les autorités mettent fin au dédouanement nocturne qui favorise de nombreuses fraudes. Bounia Isaac Remoyope, Radio Capi.
Des dédouanements nocturnes. Quelle pratique. Et Madame Youyou, lorsque les agents même de la douane se mêlent à cette fraude-là, les trésors en souffrent énormément.
Effectivement, comme vous l'avez dit, moi-même, avant d'aller poursuivre mes études, j'étais inspecteur des impôts aux contributions, au service des impôts. Donc, à l'époque, ça c'était la Direction générale des contributions.
Donc, vous connaissez bien donc les circuits.
J'en connais et je ne peux que accéder aux différentes propositions que votre collaborateur vient de dire tout à l'heure, qu'effectivement, des fois, il faut des sanctions et vis-à-vis des agents qui se comportent de manière à...
Je pense que dans ce secteur-là de la douane aussi, il y a ces agents qui s'enrichissent illicitement et c'est parce qu'il y a impunité. Depuis que vous étiez là, avant de partir aux études, vous revenez, la situation est toujours la même.
Je ne sais pas trop si la situation est toujours la même. Je ne peux pas aussi dire que c'est un cas général. Donc c'est peut-être quelques agents, une minorité de personnes qui se comportent ainsi. Donc justement, quand il y a des évidences, quand il y a des faits qui sont avérés, il faut les sanctionner. Ça pourra être un exemple pour ceux qui tenteraient de se comporter de cette manière.
Et nous pouvons dire un mot sur le bilan économique de Matata Ponyo un an après sa prise de fonction à la tête du gouvernement. Un extrait de son discours devant les journalistes à la primature suivait.
Le gouvernement a œuvré sans relâche en faveur de la consolidation des cadres macroéconomiques, mais aussi en faveur de la croissance économique. La stabilité des prix intérieurs et des taux d'échange est devenue une réalité dans notre pays. Le taux d'inflation est descendu à son niveau le plus bas depuis près de 30 ans. 2,7% en 2012. La croissance économique est montée à plus de 7% en 2012 et elle devait culminer à plus de 8% en 2013. La rigueur dans la gestion des finances publiques n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la rigueur et la bonne gouvernance exercée sur l'ensemble des secteurs ont permis à notre pays de renouer avec le financement des projets à caractère social sur base des ressources budgétaires propres.
Voilà, Madame Youyou Bayindé, vous avez suivi un an à la tête du gouvernement de la RDC. Avec ce bilan économique, bon, d'aucuns diraient que c'est du déjà entendu et on reproche au Premier ministre tout simplement le fait que les répercussions de ces résultats qu'il brandit ne se ressentent pas encore dans l'assiette du Congolais.
Je crois que j'ai terminé mon cours d'économie politique dans sa partie macroéconomique, justement avec des questions de croissance économique. Et les étudiants m'ont posé toutes ces questions. Comment expliquer une croissance économique qui n'est pas suivie des retombées sociales? Ce que je peux dire d'emblée, c'est que lorsque j'essaye d'analyser les différents indicateurs macroéconomiques, j'ai l'impression que l'objectif premier du gouvernement était de stabiliser l'environnement économique. Et il me semble, selon les indicateurs qui nous ont été présentés, que les gouvernements ont réussi à stabiliser en tout cas son cadre macroéconomique. Et ça, c'est important parce que ça, non seulement ça sécurise l'environnement, les investisseurs, ça peut sécuriser tout le monde. Autre chose, comment maintenant on peut expliquer qu'il y a une stabilité du cadre macroéconomique qui n'est pas suivie des retombées sociales? Tout dépend de comment on mesure justement la production nationale ou comment on mesure la croissance économique. Oui. Les faits sont là. Mais maintenant, en économie, on parle de l'équité. Donc, il y a le gâteau. Comment est-ce que le gâteau est partagé? Et puis, on fait aussi, comment dire, le rapport entre le taux de croissance. On demande, on pose souvent la question si c'est la meilleure mesure du bien-être économique. Et là-dedans, les réponses sont nuancées. Parce que lorsqu'on regarde la composante, par exemple, de la production nationale selon l'approche de la dépense. Donc la production nationale, c'est la somme de la consommation, de l'investissement, des dépenses gouvernementales et des exportations nettes. Maintenant, dans la production d'une année, quel est le poids de chaque composante? Quel est le poids de la consommation des ménages? Quel est le poids des investissements? Quel est le poids des dépenses gouvernementales? Et quel est le poids des exportations nettes? Donc ici, il peut arriver que les autres composantes pèsent plus dans la réalisation de la production nationale qu'est la consommation. Et donc, le retombé en termes de bien-être pour le consommateur ne se font pas sentir. Lorsque nous allons dans l'approche de revenus pour calculer les PIB, parce que finalement, la croissance, le taux de croissance, c'est quoi? C'est comment le PIB évolue d'une période à une autre. Alors maintenant, lorsque nous abordons cela dans l'approche des dépenses, donc on regarde, on fait la somme de toutes les dépenses. Et là, c'est la même logique. Quel est le poids dans l'ensemble de revenus? Que les agents économiques ont perçu, quelle est la part du salaire, quelle est la part des intérêts, des loyers, de la rémunération des facteurs de production. Donc le problème peut se poser à ce niveau-là. Oui. Et donc justement l'effort du gouvernement, si l'objectif premier était de stabiliser le cadre, ce qui apparemment est réussi, j'étais agréablement surpris lorsque mes étudiants m'ont dit que ça fait 3 ans que le taux du dollar oscille autour de 900-920, oui. Même si nous venons de loin, mais on doit reconnaître cet effort. Donc maintenant, le prochain objectif, donc il aurait été intéressant que ces objectifs puissent évoluer simultanément, mais je reconnais que ce n'est pas toujours facile. Mais maintenant, c'est essayer d'intégrer les objectifs d'équité, d'essayer un peu de réduire les inégalités. Parce que quand on réduit les inégalités, ça veut dire qu'on partage les gâteaux de manière assez équitable sur les différentes couches de la population.
Donc, docteur, ce que vous essayez de nous faire comprendre ici, c'est que les paramètres macroéconomiques étant stabilisés, le problème peut se situer au niveau de la répartition donc de ces gains.
Voilà. Au niveau de la répartition de ces gains et au niveau de chaque composante de la production nationale dans la production. Donc, si ce n'est pas la consommation, comme on sait qu'en économie, les agents économiques ou les individus répondent aux incitations, quelles sont les incitations, par exemple, pour augmenter la consommation. Voyez, donc essayez maintenant d'augmenter le poids des composantes du PIB qui peuvent facilement accroître le bien-être de la population.
Notamment, quelles sont les composantes qu'on peut exciter?
Si je prends l'approche par le revenu, donc on va essayer un peu de regarder les salaires que perçoivent les ménages. Donc c'est grâce à ces salaires que ces agents économiques ou bien les ménages peuvent acheter des biens et services, peuvent accéder à certains besoins, peuvent résoudre certains besoins. Donc essayer d'augmenter les salaires, je sais que certainement des efforts sont faits à ces niveaux, mais bon, il faut aller
un peu plus loin.
Ils sont peut-être encore minimes, donc il faut aller un peu plus loin. Pour que justement ces composantes qui nous permettent de mieux mesurer les bien-être économiques puissent nous permettre de dire qu'effectivement la croissance a été équitablement rétablie entre les différentes couches de la population.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En plus bref, le reste de l'actualité économique de la semaine, l'Afrique maintient sa forte croissance malgré le ralentissement de l'activité économique mondiale et de la pauvreté persistante.
Ceci est l'intitulé même d'un communiqué de la Banque mondiale publié lundi depuis Washington, son siège. Les prévisions de la banque fixent une moyenne de 5% de croissance entre 2013 et 2015. Elle sera soutenue par les prix mondiaux élevés des matières premières et par l'augmentation des dépenses de consommation sur le continent.
Le code minier de la RDC en cours de révision à l'Assemblée nationale n'a pas bénéficié de beaucoup de temps depuis sa mise en œuvre en 2002.
C'est ce qu'a déclaré mardi à Kinshasa le président directeur général de Randgold Resources. Randgold Resources est une multinationale qui opère dans le secteur des mines en RDC. Le PDG de cette entreprise, Marc Bristow, l'a dit à l'issue d'une séance de travail qu'il a eue avec le ministre de l'économie et commerce. Selon lui, il y a risque que le code minier qui sera révisé décourage encore davantage les investisseurs. Marc Bristow annonce par ailleurs le début vers la fin de cette année de la production des premiers lingots d'or.
Les agents de la Direction générale de recettes provinciales et de l'Équateur en Mbandaka se disent mécontents.
Ils ont observé lundi un arrêt de travail pour réclamer le paiement de leur arriéré de prime de 8 mois. Tout est parti d'un communiqué diffusé par une radio locale les invitant à se présenter au service pour recevoir cette prime qui finalement n'a pas été payée. La direction de cette régie financière ignore la source de ce communiqué. Le directeur général de la DGRPE, qui se dit être dans la même situation, a annoncé que les démarches sont entamées pour décanter la situation.
La campagne de sensibilisation de la population sur le respect de la mesure interdisant la vente de certains produits agricoles se poursuit cap ce jeudi à Kabongo.
C'est à près de 900 km de Lubumbashi au Katanga. Selon l'administrateur du territoire de Kabongo, la vente ne sera autorisée que pendant la période de la campagne agricole prévue à partir du 15 mai prochain. Les produits agricoles concernés sont l'arachide, le maïs, le haricot. Toutefois, les petites quantités destinées à la consommation peuvent être vendues.
Et l'administrateur directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Tito Umba Dimalanda, est aux arrêts.
Il a été interpellé mardi au parquet de police judiciaire. Il a été transféré mercredi au parquet général près la cour d'appel de la Gombe, où l'instruction s'est poursuivie jusque jeudi. Il lui est reproché des malversations financières.
Docteur Youyou, un commentaire à placer quelque part ? Peut-être par rapport à ce communiqué de la Banque mondiale qui estime que l'Afrique est en train de maintenir sa croissance malgré la pauvreté, malgré le ralentissement de l'activité économique au niveau mondial.
Ok, quand on parle de croissance, on parle de pauvreté, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement des aspects quantitatifs qu'il faut considérer, mais il y a aussi des aspects qualitatifs. Mm-hmm. Donc la pauvreté n'est pas que sur les aspects monétaires. Donc on calcule le revenu moyen des habitants par jour, mais aussi il y a l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé. Donc tout ça, ce sont la pauvreté. Le terme pauvreté est un concept multidimensionnel qu'on ne peut pas juste approcher par rapport à une dimension.
C'est peut-être là où la question que je posais tout à l'heure dans les coulisses. Est-ce qu'on peut, ensemble, on peut parler de croissance économique, mais aussi de pauvreté
à côté? Oui, on peut, même dans les pays les plus développés, la croissance économique peut coexister avec un certain niveau tolérable de pauvreté. L'effort, justement, c'est s'il y a une ligne de pauvreté, de faire en sorte que de plus en plus de personnes puissent passer de l'autre côté, parce qu'il y a toujours une ligne. Il y a des considérations, comme je l'ai dit, d'équité et de problèmes d'inégalité. Donc, comment maintenant on repartit le bénéfice de la croissance? Le problème se trouve à ces niveaux-là. Mais l'objectif de croissance, ça c'est une réalité, c'est une donnée. C'est ainsi. Tous les pays recherchent la croissance. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau de la répartition des retombées de la croissance. Et c'est là où les politiques doivent absolument intervenir pour qu'il y ait une certaine équité, une certaine égalité dans la répartition des retombées de la croissance.
Panorama économique, reportage.
Le reportage de la semaine nous conduit à Kalemie, dans le nord Katanga, où le beach de la coopérative mutuelle des transporteurs par boat est menacé. C'est par ce port que débarquent par semaine plus ou moins 500 tonnes de denrées alimentaires en provenance de la Tanzanie. Avec une production agricole et animalière devenue déficitaire depuis 2 ans au district du Tanganyika, la ville de Kalemie est approvisionnée par la Tanzanie. Pourtant, ce beach est aujourd'hui menacé par l'avancée du lac Tanganyika. Expedi Mwamba Mubi revient ici sur l'importance économique de ce beach.
Au beach comme Teb, le bruit du vent, mais aussi des vagues du lac Tanganyika qui continuent d'arracher de la terre. Le lac, qui a déjà gagné 50 mètres, n'est plus aujourd'hui qu'à plus ou moins 1 mètre des bâtiments. Alhaj Abdallah bin Abedi, président de la Comteb, crie au secours. 50 mètres de terre sont partis dans le lac. La situation que vous voyez là date d'avant-hier, hier et aujourd'hui. 80% de la population de Kalemie viennent s'approvisionner en produits alimentaires ici. Ces denrées proviennent de la Tanzanie. À vrai dire, nous, comme coopérative, nous n'avons pas les moyens de lutter contre l'avancée du lac. C'est pourquoi nous en appelons à l'État et aux ONG. Chaque semaine, près de 500 tonnes de denrées alimentaires, mais aussi le gros et petit bétail, y compris de la volaille, importée de la Tanzanie, débarquent dans ce port. Le beach comme Teb permet aussi de sécuriser les embarcations de la coopérative. Les explications avec Ekona Makongo, commissaire au compte.
Nous avons dit bon, qu'on puisse faire ce beach parce qu'au grand port là-bas, il y a un embouteillage maintenant des bateaux. Et nous, nos ustensiles sont en bois. Avec ce mouvement-là des bateaux, on arrive souvent à perdre nos embarcations.
Kalemi, Expedi Mwamba Mubi, Radio Kapi.
Et très bon week-end à toi, Expedi Mwamba Mubi à Kalemi. Nous allons terminer Panorama économique en parlant un peu de notre invité, Madame Yuyu Baende. On vous l'a présenté comme docteur en économie. Madame Yuyu, parlez-nous un peu de votre parcours, comment ça s'est passé, le cursus universitaire jusqu'à décrocher votre doctorat et qu'est-ce que vous avez déjà eu à publier comme ça dans le secteur de l'économie.
Ok, bon, j'ai fait mes études à l'Université de Kinshasa, j'ai fait l'économie monétaire internationale. Après cela, donc, comme j'ai fini avec une distinction, donc j'ai fait quelques années d'assistanat et puis j'ai bénéficié de la bourse de la coopération technique belge où je suis allée à l'Université catholique de Louvain pour poursuivre mes études. La première difficulté que j'ai eue, c'est que là-bas, la formation en économie, c'est en anglais. Donc, ceux qui restent, les femmes qui veulent rester dans la filière économique, premièrement, doivent faire un effort pour apprendre l'anglais et l'informatique. Donc, sans un minimum d'information, sans un minimum de connaissances en informatique, on est tout à fait perdu. Mmh. Et puis, il y a les maths. Donc, on avait toujours cru que faire l'économie...
Ça la bête noire des journalistes.
Oui, c'est ça. Et en économie, il y a deux options. On croyait que, voilà, si je fais telle option, je vais éviter les maths. Mais lorsqu'on veut aller plus loin, ça vous rattrape.
Les maths vous rattrapent.
Les maths vous rattrapent. Et à un niveau assez élevé. Donc, ça, c'est un autre défi. Mais je crois que le cerveau, il n'est pas masculin. Hein. Ça dépend de comment... On le travaille et puis ça peut aller.
Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre assistante.
Oui, Madame Béatrice Lipembou.
Voilà, il y en a d'autres certainement. Votre appel à ces femmes-là, parce qu'on panorama économique, depuis que l'émission existe, n'a enregistré que la participation d'une seule dame que nous pouvons vanter ici, Dorcas Nsélé. Et depuis qu'elle ne vient plus à panorama économique, il n'y a que des hommes qui viennent. Le cerveau, vous l'avez dit, n'est pas seulement masculin, il est aussi féminin. Un appel à ces dames-là qui écoutent souvent aussi Panorama économique, les émissions économiques de Radio Capi.
Je crois que c'est un problème d'information. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en économie, en tout cas à l'Université de Kinshasa, il y a un grand nombre de dames. J'ai une collègue qui s'appelle Brigitte Co, elle est professeure, elle est là, je crois, depuis 2 ans. Il y a une autre, mademoiselle Blandine Bawawana, qui vient de rentrer des États-Unis, qui est aussi professeure, qui va bientôt commencer aussi ses enseignements. Il y a plusieurs assistantes, chefs des travaux qui sont là. Donc je crois que si vous faites un tour par là, vous ne manquerez pas de les rencontrer et de leur proposer de passer ici. Et je crois qu'elles se feront un plaisir de venir commenter.
Nous pouvons lire Dr. Yu sur quel titre, par exemple, sous quel titre? Disons, quelques publications.
Oui, j'ai fait une publication sur la croissance économique, donc où j'ai parlé de l'importance de l'éducation. Donc j'ai utilisé un modèle, c'est sur le net. Si vous mettez Bayende Bofota Yuyu, vous allez voir les quelques publications que j'ai. J'ai parlé du capital social comme étant un facteur qui peut faciliter l'accumulation du capital humain, donc de l'éducation. Et voilà, ce sont les deux publications que j'ai faites pendant que j'étais en thèse, qui sont sur le net, que vous pouvez facilement consulter.
Yuyu Bayende, docteur en économie, professeur à l'université de Kinshasa. Agathe, un mot à dire, sinon on dit au revoir à notre invité et à nos auditeurs.
Merci au docteur Yuyu d'avoir accepté notre invitation à Panorama économique. Et l'appel est lancé à toutes les autres femmes qui se sont intéressées par l'économie et qui aimeraient commenter avec nous l'actualité économique de la semaine. Bon week-end à nos auditeurs. On se retrouve dès lundi, 18h15, heure de Kinshasa, dans Écho d'économie.
Vos suggestions et remarques sont les bienvenues à seo@radiocapi.net. Très bonne fin de semaine à tous.